Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, 7h45, Jérôme Chapuis, vous recevez ce matin le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation en charge de la jeunesse, Gabriel Attal.
Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour.
Crise de nerfs entre le Sénat et la présidence de la République au sujet de l'affaire Benalla. On n'a pas vu, paraît-il, une telle tension entre les deux institutions depuis le général de Gaulle et Gaston Monnerville. Vous n'étiez pas né, moi non plus. Est-ce que tout ça ne va pas un peu loin?
Je crois pas. Je pense que c'était important de marquer le coup face à ce qui a été fait hier. C'est-à-dire une forme d'instrumentalisation des institutions à des fins de politique politicienne.
Parler d'attaque, d'une agressivité inédite, comme l'a fait Richard Ferrand, d'actes moralement très graves, d'infraction à la séparation des pouvoirs, c'est un peu fort. Bah,
ce qui est un peu fort, c'est d'utiliser les institutions, en l'occurrence le Sénat et une commission d'enquête, pour essayer de mettre en cause le président de la République à travers des collaborateurs. Je ne sais pas, quand on lit la décision du bureau du Sénat de transmettre à la justice, c'est quand même assez confondant d'instrumentalisation.
Mais c'est son droit pur et simple. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est la justice qui se prononce.
Mais ça ne nous empêche pas de dire que c'est confondant. Quand on dit on transmet le nom de deux collaborateurs, non pas pour des certitudes ou pour des faits, mais pour d'éventuelles suspicions, c'est le terme qui est employé. En droit, une suspicion, ça ne veut rien dire. Soit on a des certitudes, soit on a des faits, mais des suspicions, ça ne veut rien dire. Mais et d'ailleurs, il y a des membres de la majorité sénatoriale. Des membres de la majorité sénatoriale, c'est-à-dire de l'opposition au gouvernement, eux-mêmes sont très mal à l'aise et on dit qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils trouvaient que le Sénat était allé assez loin. Je vous renvoie aux déclarations de Hervé Marseille, de Valérie Létard, qui n'avaient pas les faits suffisants. Qui font partie de la majorité sénatoriale.
Les sénateurs constatent que certains faits pourraient tomber peut-être sous le coup de la loi. Ils le signalent à la justice enquête, ce sont les institutions, non?
Non, mais il y a une enquête judiciaire qui existe aujourd'hui. Il y a des juges qui font un travail justement pour déterminer ce qui s'est passé d'éventuelles responsabilités. Imaginez qu'on peut utiliser les institutions pour mettre à l'index des collaborateurs sur la base non pas de faits, mais de suspicions. C'est pas au niveau au moment où on a un pays, on l'a vu, qui connaît des tensions, où on a un gouvernement qui est mobilisé à la fois pour répondre
le Premier ministre,
sur le grand débat. On a une Assemblée nationale qui discute sur le projet de loi santé et le Sénat qui se dit je vais jouer à essayer d'engager un touché-coulé avec le gouvernement, avec la Constitution comme plateau de jeu. C'est pas au niveau.
Le Premier ministre qui boycotte du coup les questions au gouvernement au Sénat, est-ce que c'est au niveau?
C'est une manière de marquer le coup.
Mais il va revenir?
Ah bah écoutez, oui, le Premier ministre...
Hier, on était tous un petit peu estomaqués. Est-ce que le président du Sénat et le président de la République, ou au moins le chef de gouvernement, doivent se reparler, et vite, selon vous?
De toute façon, tout le monde se parle. Je veux dire, il n'y a pas de rupture, quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, Gérard Larcher a ouvert la séance des questions au gouvernement hier, en annonçant qu'Édouard Philippe lui avait téléphoné pour lui annoncer qu'il ne venait pas aux questions au gouvernement. Mais c'était important de marquer le coup, encore une fois, parce que c'est pas au niveau. Et nous, on est au niveau.
Vous rendez compte quand même du spectacle. On est en pleine crise des gilets jaunes, on négocie le Brexit, on va recevoir la semaine prochaine le président chinois, et voilà notre démocratie qui se donne en spectacle.
C'est pour ça que le Sénat donne en spectacle la démocratie et qu'on ne l'accepte pas.
Benjamin Griveaux a-t-il gaffé avant-hier en annonçant que la mission Sentinelle allait renforcer demain samedi le dispositif contre les casseurs?
Ce qu'il a expliqué, c'est qu'on allait adapter notre dispositif. Vous avez, pour moi, les choses sont assez claires. Vous avez aujourd'hui des soldats de la mission Sentinelle qui gardent des institutions, qui surveillent des institutions. Vous avez des policiers qui sont chargés du maintien de l'ordre. Et pendant les manifestations, des policiers ont été chargés de garder des institutions pour éviter que des manifestants, parce qu'il y a quand même des manifestants qui ont tenté de rentrer dans l'Assemblée nationale, dans l'Élysée, que des policiers avaient été mis en place pour garder ces institutions. Et ce qui a été annoncé, c'est que ces policiers qui sont là pour faire du maintien de l'ordre allaient faire du maintien de l'ordre et qu'on allait s'appuyer sur les soldats de Sentinelle pour continuer à surveiller des institutions publiques.
On n'avait pas compris ça tout de suite.
Alors, c'est pour ça que je suis là aussi, pour l'expliquer comme mes collègues du gouvernement qui s'expriment régulièrement dans les médias. Pour moi, c'est assez clair. On veut que nos policiers soient là pour faire du maintien de l'ordre. On voit qu'on en a besoin. Et donc, c'est important qu'ils soient sur le terrain, au cœur de leur mission. Et les soldats sentinelles sont au cœur des leurs quand ils surveillent des institutions publiques.
Cette difficulté à communiquer sur un sujet aussi lourd que l'intervention de l'armée sur le sol français, est-ce que ça témoigne pas, là encore, sinon d'une forme d'amateurisme, en tout cas, au moins d'une grande fébrilité?
Je crois pas. Je pense que l'important, c'est que les Français mesurent qu'on fait tout, on organise tout pour faire en sorte que l'ordre soit maintenu dans le cœur de Paris après ce qui s'est passé la semaine dernière. Et c'était un des éléments de cette réponse.
Demain, d'ailleurs, en matière d'ordre public, vous n'avez pas droit, le gouvernement n'a pas droit à l'erreur. C'est une obligation de résultat pour le gouvernement.
En tout cas, tous les moyens sont mis pour faire en sorte qu'il n'y ait plus les débordements qu'on a connus le week-end dernier.
Là, vous me parlez de moyens, moi je vous parle de résultats. Bah,
évidemment, on vise un résultat qui est le moins de débordements possible, qu'il n'y ait pas de débordements. Et encore une fois, les mesures qui ont été annoncées, elles permettront d'atteindre cet objectif. En tout cas, je l'espère et j'y crois parce qu'il y a des mesures très fortes qui ont été annoncées par Christophe Castaner et le Premier ministre. Il y a un changement qui a été fait à la préfecture de police de Paris, puisque à l'évidence, des consignes qui avaient été données n'étaient pas poursuivies. Et donc, à partir de là, on peut tout à fait être serein.
Alors, dans ce contexte, vous, Gabriel Attal, ouvrir tout à l'heure une conférence citoyenne. C'est le nom qu'on a donné à ces réunions dont le but est de synthétiser le grand débat. Et ce sera avec des jeunes tirés au sort. Est-ce qu'ils seront nombreux ?
Oui, ils seront nombreux, ils seront 80.
Ils seront présents, vous en êtes sûr ?
Présents, tirés au sort partout en France. C'était quelque chose, moi, qui me tenait beaucoup à cœur. Quand on a lancé le grand débat et qu'on a annoncé ces conférences citoyennes avec des Français tirés au sort partout en France, dans chaque région, moi, ça me tenait vraiment à cœur et j'ai vraiment souhaité qu'on puisse avoir une conférence citoyenne dédiée aux jeunes.
Je vous pose la question parce que
la parole des jeunes, elle se libère facilement quand ils sont entre jeunes. Quand on est jeune et qu'on va dans une réunion avec des moins jeunes, entre guillemets, qui ont tout un vécu, une expérience, qui souvent s'appuient sur ce vécu et cette expérience pour s'exprimer, ça peut être intimidant. On peut se dire, est-ce que je suis vraiment légitime pour m'exprimer ? Donc, c'était important qu'il y ait ce cadre de confiance pour que les jeunes puissent s'exprimer, faire des propositions.
Parce que jusqu'à présent, on ne les a pas vus, quasiment pas vus dans les réunions publiques.
Ils ont beaucoup participé au grand débat à leur manière. Je vous disais à l'instant que quand on a une réunion publique ouverte à tous, avec des personnes, encore une fois, qui s'appuient sur tout un vécu, ça peut être intimidant. Et moi, je comprends que des jeunes se disent, je ne vais pas aller dans cette réunion, est-ce qu'on va me considérer comme légitime ou pas ?
Oui, ils ont beaucoup participé, vous avez des chiffres, je ne sais pas, sur les forums de discussion, sur...
Il y a des initiatives qui ont été prises. Par exemple, il y a trois jeunes ingénieurs des Hauts-de-France qui ont mis en place une plateforme Entendre la France, où ils ont repris le questionnaire du grand débat à travers un chatbot sur Messenger. Mmh. C'est un peu technique, mais en gros, c'est via Facebook Messenger. Il y a eu 212 000 contributions, 50% ont moins de 25 ans. Donc on voit bien que les jeunes, quand on leur donne les moyens de le faire, quand on leur donne le cadre de le faire, ils s'expriment. Il y a eu aussi des réunions, beaucoup de réunions partout en France qui ont été dédiées à des jeunes. J'en ai fait une vingtaine. J'en ai fait dans toutes les régions de France.
Et alors, je suis allé à la Réunion. Les sujets qui remontent préoccupation des jeunes et les...
Il y a pour moi deux sujets principaux qui remontent. D'abord, c'est la question de l'environnement et du changement climatique. On voit bien que c'est un combat générationnel. On l'a vu dans la rue la semaine dernière, j'étais avec les jeunes dans la manifestation. Et puis après, il y a des questions très concrètes de vie quotidienne pour les jeunes. Mobilité, pouvoir d'achat, insertion professionnelle, c'est les deux sujets qui remontent. Il y a aussi des propositions qui sont faites sur les institutions et la citoyenneté.
L'Europe, ça remonte ou pas ? C'est un sujet de préoccupation ?
C'est pas vraiment un sujet du grand débat. Moi, ce que je souhaite, c'est que les jeunes s'intéressent à l'Europe, évidemment, et puis participent à l'élection européenne et votent à l'élection européenne.
Je vous pose
ce que je souhaite, c'est que la jeunesse soit au cœur des enjeux de débat de l'élection européenne. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la mobilité européenne des jeunes. Il faut qu'il y ait davantage de jeunes qui aient l'occasion d'avoir une expérience de mobilité en Europe, qui aient une expérience dans un autre pays que la France. Ça fait partie des objectifs que poursuit le président de la République et je souhaite que ça soit au cœur de la campagne.
Tout cela dans un contexte, on le disait, c'est l'information de la nuit, d'un nouveau report du Brexit pour quelques jours. Ce sera le 12 avril au lieu du 29 mars. La nouvelle date limite a été fixée pendant la nuit. Une réaction sur ce point ?
Je crois qu'on arrive au moment de vérité et c'est heureux. Et le président de la République s'est, je crois, hier soir, beaucoup battu dans cette réunion qui réunit les chefs d'État européens pour qu'on en arrive là. Parce qu'il y a un moment, il faut choisir. Ça fait 1200 jours, vous le disiez sur votre antenne, que les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne. Et il y a un moment, il faut jouer carte sur table. Il y a des milliers de responsables, de fonctionnaires européens qui travaillent depuis 1200 jours pour organiser la sortie. On a donné en France du temps parlementaire pendant une semaine. On a discuté un projet de loi pour préparer la sortie de la Grande-Bretagne. D'autres pays ont fait pareil. Donc il y a un moment, il faut que les élus britanniques soient responsables et choisissent. On ne peut pas sortir en moonwalk, reculant comme ça. Il faut faire un choix clair et il faut de la responsabilité. Donc là, maintenant, c'est très clair. La semaine prochaine, nouveau vote sur l'accord qui a été négocié. Soit les Britanniques le votent et à ce moment-là, il y a une sortie qui s'organise jusqu'au 22 mai, avant les élections européennes. Soit ils ne le votent pas une nouvelle fois et à ce moment-là, il faudra qu'ils présentent une alternative crédible avant le 12 avril. Sinon, ça sera la sortie sèche.
Tout cela alors que les jeunes Britanniques sont massivement favorables au maintien de leur pays dans l'Union. Ce qui fait d'ailleurs que les sondages aujourd'hui montrent que si un référendum avait lieu à nouveau, eh bien, le maintien serait choisi. Ça doit donner des regrets quand on est pro-européen comme vous ?
Oui, et, en tout cas, ce que je vote positif, c'est que la jeunesse soutient le projet européen. Que la jeunesse se rend compte que, pour répondre aux enjeux que j'évoquais à l'instant, qui sont des enjeux générationnels comme le changement climatique, l'échelle de l'efficacité, c'est l'Europe. Et qu'on a besoin d'Europe pour répondre à cet enjeu, pour répondre à l'enjeu de la taxation des géants du numérique qui utilisent nos données personnelles pour faire de l'argent, pour protéger nos industries, protéger nos emplois. Et le fait que les jeunes aient cette conscience-là, que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, je trouve ça extrêmement, extrêmement positif.
Nathalie Loiseau va sortir du gouvernement la semaine prochaine. Très vraisemblablement, elle devrait être désignée comme tête de liste LREM pour les européennes. Sans doute aussi Benjamin Griveaux qui pourrait mener le combat à Paris. Alors votre nom circule, Gabriel Attal, pour devenir porte-parole. À vous entendre vous exprimer sur tous ces sujets depuis tout à l'heure, on devine que vous pourriez en avoir envie.
Moi, je suis arrivé au gouvernement il y a 5 mois et je suis très heureux d'être secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer, de travailler sur le service national universel, de travailler sur les questions de jeunesse, sur les questions d'engagement, sur le financement de la vie associative,
c'est
le développement de la vie
associative. Il y a des gens qui ont un portefeuille ministériel et puis qui sont porte-parole à côté.
Moi, je ne suis pas en demande.
Vous n'êtes pas en demande, d'accord. Merci beaucoup, Gabriel Attal, d'avoir été l'invité de RTL ce matin.